Bonjour, bienvenue au Jardin des Vignettes. Je vais vous faire une première petite visite et vous exposer mon projet et ma manière de travailler. Alors on est parti. J'ai fait le choix il y a 3 ans de quitter mon métier de bibliothécaire pour faire une reconversion dans le maraîchage, mais pas n'importe laquelle, sur petite surface et en sol vivant. Il faut savoir qu'ici, vous êtes sur une exploitation qui fait en tout, hein, avec les cabanes comprises, qui fait 7 500 m². Un hectare, c'est 10 000 mètres, donc il y a 7 500 m. Donc déjà, il y a moins d'un hectare. Et moi, je cultive à peu près 4 000 m. Donc, comparé aux exploitations qui sont autour, des agriculteurs conventionnels, des céréaliers, en fait, principalement, qui sont des grosses exploitations qui font quelquefois des centaines d'hectares, vous voyez que moi, c'est tout petit, en fait. Et l'idée, c'est de montrer que sur une toute petite surface de 4 000 m², on peut produire assez de légumes pour pouvoir en vivre. Donc on va se promener un petit peu dans les parcelles et vous allez voir, il y a peut-être des choses qui vont vous étonner. On y va. Première chose que vous pourrez remarquer, c'est qu'ici, vous avez des tas. Ici, vous n'avez pas de travail du sol, c'est-à-dire pas de tracteur, ou très peu de motoculteur. Je travaille par couche, en fait. Je couvre le sol et ce sont les vers de terre et tous les micro-organismes qui travaillent le sol à ma place. Donc ça ne fait pas de bruit et ça ne pollue pas. Voilà. Et donc pour que les vers travaillent bien, il faut leur donner bien à manger. Et ce qu'on leur donne à manger, c'est de la matière organique. Et donc la matière organique, c'est quoi? C'est tous les déchets végétaux. Voilà. Donc ici, vous avez du broyat, c'est du bois broyé. Quand les espaces verts taillent les haies, quand ils broient en fait tout ce qu'ils taillent, et il y a certaines entreprises qui m'en apportent gratuitement, et je peux l'étaler sur mes parcelles. Là-bas, c'est du compost, donc c'est la même matière que ça, mais sauf que c'est chauffé, et c'est très riche en nutriments. Et c'est de la matière carbonée, c'est ça en fait qui nourrit la vie du sol. Donc avant d'être un maraîcher sur sol vivant, il faut être un éleveur de vers de terre. Parce que là, vous ne les voyez pas, mais ils sont tous en train de travailler pendant que nous on parle et ils ne s'arrêtent jamais. Voilà. L'idée étant de nourrir le sol plutôt que de nourrir la plante. Un engrais chimique, il va nourrir la plante. C'est-à-dire il va donner à manger à la plante. Mais tout ce qui est autour de la plante, ça ne sera pas stimulé, ça ne sera pas vivant. Là, c'est le contraire. En fait, on nourrit le sol et les micro-organismes du sol. Et c'est eux, c'est par leur travail, qui vont nourrir la plante. Donc on va continuer un petit peu dans le champ. Donc vous voyez, vous avez plusieurs parcelles, hein, 1, 2, 3, 4 pour l'instant. La parcelle qui est devant nous est couverte d'une bâche plastique. Donc l'idée, c'est quand on a une prairie d'herbe, comme vous voyez là, on la bâche pendant au moins 6 mois, il faut que ce soit assez long. Et ensuite, quand on enlève la bâche, on voit qu'on a plein de vers de terre. Et on voit que le sol a beaucoup travaillé et il n'y a plus d'herbe. Donc on peut remettre du compost dessus et semer. Et on n'a pas travaillé le sol et le sol a été aéré par les vers de terre. Pour faire rentrer de l'oxygène dans le sol, puisque les racines ont besoin d'oxygène. Hein. Si les racines n'ont pas d'oxygène, elles pourrissent en fait. Et donc là, vous avez cette parcelle sur laquelle à l'automne, on a étalé du fumier, vous le voyez en dessous, hein, du fumier de cheval. C'est aussi une autre matière organique qu'on peut poser sur le sol. Et on a mis la bâche par-dessus. Et au mois de mai, parce qu'on a fait ça en automne, donc ça ferait octobre, novembre, décembre, janvier, mars, avril, mai, donc ça fait à peu près 7-8 mois après, on va débâcher et en dessous, on aura une surface propre qu'on pourra cultiver. Voilà, on plantera dedans des courges, des courgettes, les concombres, tous les légumes qu'on plante au mois de mai. On plante les légumes d'été, en fait. Donc si vous voulez, on peut continuer un petit peu par là, parce que par là, on a des planches qui commencent à être en culture. Une autre spécificité de mon travail, c'est que je travaille sur planches. Et ce sont ce qu'on appelle des planches permanentes. C'est-à-dire qu'elles vont, une fois qu'elles sont définies, les planches, vous voyez, elles font 80 cm sur 30 mètres de long. Elles font 90 cm de large sur 30 mètres de long. Et une fois qu'elles sont définies, elles restent toujours comme ça. Et on empile la matière sur les planches et on ne marche plus dessus. Enfin, dans la mesure du possible, on marche le moins possible dessus. On marche uniquement dans les allées. L'idée étant d'avoir un sol qui se structure sur 20 cm au fur et à mesure qu'on fait des apports de matière organique, comme je vous ai montré. Et ben, du coup, on a des planches qui sont très souples, très meubles, sans les travailler. Et l'idée, c'est de ne pas tasser le sol. Parce que quand on tasse, on enlève l'oxygène et on annihile un peu la vie du sol. C'est pas très bien de marcher sur les planches. Voilà. Vous voyez ici très, beaucoup d'orties, beaucoup d'herbes, c'est sol riche. À cet endroit-là, on mettra les tomates. Un peu plus long, vous avez aussi quelque chose qui est assez original. Ici, donc, c'est le champ de pommes de terre qui est planté. Là, on a posé la pomme de terre sur le sol et on l'a enterrée un petit peu et on a mis de la paille par-dessus. Sachant que la manière traditionnelle de cultiver la pomme de terre, c'est de faire un trou et de recouvrir de terre. Voilà. Moi, dans mon optique de toujours de ne pas travailler le sol, de laisser travailler le sol tout seul et de couvrir, en fait, là, je fais d'une pierre deux coups parce que je mets la patate, donc je vais avoir une récolte. Mais en même temps, mon sol reste protégé et il travaille. Donc, si vous voulez, on peut essayer de trouver une petite patate. Et vous verrez que sous la paille, c'est très mouillé. Hein. C'est très humide. Hein. Donc là, est-ce qu'on a une petite patate qui traîne? Je pense que oui. Voilà. Vous voyez, elle est là. Elle est là, la petite patate. Regardez tous les vers aussi qu'il y a autour. Donc voilà. C'est le petit nid de la pomme de terre. Sous la paille. Et on va la remettre à dormir, tranquille. Alors je vais terminer la visite par le local de vente, par vous montrer la fin de la chaîne, puisque là on a vu l'outil de production entre guillemets qui était le terrain, et là on va voir l'outil de vente. Voilà. Ici en fait c'est le local de vente. Donc c'est ce qu'on travaille en vente à la ferme en fait, comme ça se fait beaucoup. Et donc c'est un lieu très rustique, hein, vous voyez, avec des racks, on pose les caisses de récolte dessus. Et ici on a une petite balance avec une petite caisse et on vend nos légumes ici. Moi je travaille en vente directe, c'est-à-dire que je n'ai pas de distributeur. Je ne vends pas à quelqu'un qui va revendre mes légumes. Je vends moi directement ce que je produis. Donc l'argent il va directement du consommateur au producteur.
Une question, madame. Est-ce que vous avez des clients fidèles?
Ah oui, j'ai des clients fidèles qui viennent toutes les semaines, qui me prennent de tout, qui chipotent pas, qui sont super. Hein. Ouais, j'ai des clients fidèles, ouais. Et d'ailleurs, c'est un aspect important aussi de ce travail de vente directe. C'est que ici, c'est un petit peu le bistrot du coin le vendredi matin. Donc les gens du village se retrouvent, discutent et apprécient beaucoup. Et ils me disent, c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de se rencontrer, on ne se rencontre plus. Et là, ils se rencontrent là. Donc comme il y a un petit peu d'attente, il y a un petit peu de queue, ça leur permet de discuter et c'est très apprécié. Moi, je suis du village depuis que je suis toute petite, donc j'ai grandi ici, donc je connais plein de gens. Et mes parents ont toujours vécu ici, donc ils connaissent aussi plein de monde. Et du coup, ça fait du lien social, oui, dans le village. Il y a beaucoup de gens qui apprécient et cette bonne humeur. Et voilà, c'est cool.
Votre source de revenus, elle se fait qu'avec la vente des fruits et des légumes?
Oui. Et ça fait 2 ans que j'ai pas de salaire. Parce qu'en fait, quand on débute, tout l'argent que je gagne, il sert à payer le matériel, il sert à payer les graines, parce que je fabrique tous mes plants à Lomperrier. En fait, j'ai une petite serre à plants et c'est moi qui fais tous mes plants. Donc, je n'achète pas de plants, mais j'achète des graines. L'idée, c'est aussi peut-être de faire moi-même mes graines, parce que ça, c'est, j'achète que de la semence biologique reproductible, donc je peux faire mes graines. Et après, il faut acheter le voile, c'est cher, les arceaux, c'est cher, les outils, c'est cher, même une brouette, c'est pas donné. Enfin voilà, il faut payer les assurances, l'eau, l'électricité, voilà. Alors après, j'ai mon mari qui travaille, je suis pas toute seule, voilà. Je suis aidée aussi par mes parents qui m'aident bénévolement, ça c'est très important parce que si j'étais vraiment toute seule, physiquement c'est quand même difficile. Alors planter, semer c'est difficile, mais récolter c'est aussi très difficile quand on est tout seul. Donc mes parents me donnent un coup de main, voilà.
Alors je m'appelle Madame Colin-Marie France, je suis la maman de Véronique, je suis retraitée, alors comme ça je suis bénévole.
Qu'est-ce que vous faites de vos journées ici dans le potager?
Ah ben alors là, on travaille, hein, je peux te le dire.
Donc lorsque votre fille vous a dit qu'elle se lançait dans le jardinage, est-ce que vous l'avez accepté comme telle ou bien vous avez suggéré autre chose?
Ah non, on a participé. Hein. On dit si ça marche pas, ben on verra. Mais on va faire tout pour que ça marche. Elle a été élevée dans les champs, dehors, tout le temps, beaucoup. Hein. Bon après, ça revient. Hein.
Votre fille nous a dit que le jardinage, elle en a fait depuis toute petite. Et cette passion, elle venait de vous ou bien de votre mari?
De son père, oui. Moi aussi, j'ai fait du potager quand j'étais enfant avec mes parents. Mais avant, on faisait tout ça, plus ou moins. Mais c'est mon mari qui a toujours aimé ça. Alors.
Je suis Colin, Yves-Marie, je suis le papa de Véronique. Et puis je l'aide du mieux que je peux sur l'entreprise, quoi, sur son terrain. Mes grands-parents, c'était des Belges qui sont venus travailler ici quand ils ont pris une petite ferme en location. Ils vivaient avec 35 hectares. Donc nous, on a été élevés là-dedans. Après, j'ai travaillé à Roissy pendant 30 ans, je faisais les pleins des avions. Et comme je faisais les cartes postées, soit des matins, des soirs, des nuits, ben, ça m'a permis d'acheter des petits bouts de champ. J'avais un cheval, j'ai eu plein de choses comme ça dans ma vie. On a été élevés là-dedans. Moi, actuellement, j'ai encore des poules, des lapins, des pigeons, j'ai des chiens, je vais à la chasse. Enfin, je vis comme des gens, ils vivaient à 50 ans. Je fais du cidre, je fais mon cidre encore. Ça paraît assez... On ramasse les pommes, on les presse, on fait tout ça chez nous. Et j'ai transmis ça à ma fille et à mon fils. Nous, on était plus comme les fermiers actuels. On faisait plus de chimique, de mécanique. Et elle, c'est tout l'inverse. C'est la terre qui travaille, elle veut pas travailler la terre, elle met de la paille dessus et tout. Bon, pour moi, c'est une révolution, quoi. C'est pas... Maintenant, je fais ce qu'elle me dit de faire, mais ça correspond pas à ce que j'ai fait toute ma vie, quoi. Je suis admiratif pour la société, pour l'environnement, pour beaucoup de choses. Maintenant, c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de... plus de mécanisation, donc ça fait beaucoup plus de travail physique. Après, les productions, c'est pas du tout les mêmes non plus. Donc, c'est un beau projet pour l'avenir, pour l'écologie, mais disons pour la productivité et tout ça, c'est pas si évident que ça, quoi.
Ça vous fait plaisir de l'aider?
Bah, bien sûr, ouais. Ça fait plaisir, et puis on fait pour elle. Ça lui fait de la main-d'œuvre pas chère.
Il y en a de plus en plus, hein. Des producteurs locaux qui ont des petites surfaces comme ça, qui travaillent sur sol vivant, etc. Il y en a plein. Et c'est encourageant. Après, de là à dire que ça va changer la société, que ça va... Il y en a plein, mais il n'y en a pas encore assez. Et est-ce que le monde est vraiment prêt à changer dans ce sens-là? L'idée, c'est de préserver aussi cette parcelle, parce que bon, ça construit partout. En Ile-de-France, l'accès à la terre, ça, c'est vraiment un problème politique, hein. Ça, il faut le savoir, en fait. L'accès à la terre est impossible, en fait, puisque maintenant, vous avez d'un côté la pression immobilière qui fait que le moindre terrain peut être la proie des promoteurs immobiliers, sauf si les PLU des mairies font en sorte que, mais après, voilà, c'est uniquement entre les mains des conseils municipaux et des maires, donc chacun fait ce qu'il veut, en fait. Et ensuite, vous avez les agriculteurs conventionnels, les céréaliers, qui ont la main mise en fait sur toutes les terres d'Île-de-France. Et il faut savoir que dès qu'un terrain agricole est à vendre, ils sont prioritaires pour l'acheter. Il y a des associations qui essayent justement d'aider. Il y a l'association Terre de Liens qui essaye justement de racheter des terres pour les revendre à des personnes qui ne sont pas issues du monde agricole. Mais par exemple, ici, le fermier qui est autour, il voulait le récupérer. Mais comme c'est un terrain municipal, la mairie a dit non, voilà. Mais ils n'en ont jamais assez, quoi. Et entre les promoteurs et les céréaliers, c'est difficile d'avoir accès à la terre. Et c'est inquiétant, parce que ça veut dire que les personnes deviennent de plus en plus dépendantes des supermarchés, des importations, etc., pour se nourrir. Aujourd'hui, on est dans un pays où se nourrir, ça va de soi, ça a l'air fastoche, il suffit d'aller au supermarché. N'empêche que quand on voit qu'on a une pandémie comme ça, ou si un jour on décide qu'il n'y a plus d'échanges entre les pays parce que c'est plus possible, etc., elle vient d'où notre nourriture? Moi, sur 4000 mètres, je produis des dizaines de variétés de légumes. Et eux, sur des centaines d'hectares, ils produisent trois trucs qui ne sont même pas mangeables. C'est mon travail de colibri, comme dirait Pierre Rabhi.